Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission La Clé des Champs, l'émission portée par la communauté de communes Onisud qui vous fait découvrir les secrets des acteurs culturels et scientifiques du territoire. Au programme aujourd'hui, nous recevons Thierry Sozo qui va vous parler de son travail d'historien et de son projet de collecte des mémoires et archives autour du patrimoine. Dans notre rubrique micro-trottoir, nous plongerons avec Julie au cœur d'un escape game organisé par le réseau des bibliothèques Onisud à l'occasion de la Nuit de la Lecture 2025. Prenez garde à Barbe Bleue. Pour nous remettre de nos émotions, Renaud fera un zoom sur l'orchestre d'harmonie de Surgères en compagnie de Pierre Vivier, le président de l'association. Nous terminerons l'émission par l'agenda culturel. Mais commençons par un peu d'histoire avec l'interview. Bonjour Thierry Sozo.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en histoire moderne à l'Université de Poitiers. Vous êtes aujourd'hui dans l'émission La Clé des Champs pour nous parler de votre travail de recherche, notamment autour de l'histoire du Vendier, dont vous avez publié un article dans la revue L'Actualité de Nouvelle-Aquitaine en 2023. Et vous êtes à l'initiative de l'événement Histoparty. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet ?
Bien, ce projet, c'est un programme de recherche qui est destiné à sauvegarder la mémoire des lieux et surtout à la transmettre, j'ai envie de dire, aux gens qui viennent s'installer sur un territoire et qui ont envie de savoir comment c'était avant.
Alors, comment vous est venue l'idée de ce projet ?
Alors, l'idée de ce projet, elle nous est venue à plusieurs, hein, puisque je travaille avec un collègue de géographie de l'Université de La Rochelle qui s'appelle Frédéric Pouget. Et en fait, ce projet, il a émergé au lendemain de la tempête Xynthia parce qu'on avait la volonté, finalement, d'aller chercher dans le passé les événements et ce qui s'était passé en termes de tempête bien avant que Cynthia. Donc ça vient de là au départ.
Donc vous travaillez en collaboration avec Frédéric Pouget, qui est enseignant en géographie à l'Université de La Rochelle et ingénieur géomètre. Et vous travaillez également avec une équipe d'étudiants. Quels ont été leurs rôles ?
Alors le rôle des étudiants, il est essentiel parce qu'en fait c'est par eux que passe la collecte des témoignages, c'est eux qui se rendent sur le terrain et qui vont entrer en contact avec les témoins et susciter en quelque sorte leur envie de témoigner sur leur territoire.
Les données de collecte sont retranscrites avec un outil de cartographie grâce au système information géographique, le SIG. Comment cela se présente-t-il concrètement ?
Alors concrètement, le SIG, c'est une carte, hein, une carte toute bête sur laquelle on peut zoomer, se déplacer, etc. Et en fait, elle n'est pas si bête que ça, cette carte, parce qu'on va lui apporter de l'intelligence, on va poser des points là où les témoins, finalement, ont des choses à raconter. Et associé à ces points, on va ouvrir des fiches avec la retranscription du témoignage. Et puis, puisqu'on est on a affaire à des étudiants en histoire, des gens qui sont des apprentis chercheurs, eh bien à ces témoignages-là, on va essayer d'associer des archives, là, qui ne sont pas forcément collectées le jour même, mais qui viennent des dépôts d'archives publiques, municipaux, départementaux, etc.
Et est-ce qu'il y a un site pour voir les premiers résultats des collectes ?
Alors, il y a un site pour voir les premiers résultats des collectes. Ce site est pour l'instant expérimental. Il est plutôt à usage interne des équipes, mais il a vocation effectivement à devenir ouvert, hein, et à permettre, notamment à nos partenaires sur le terrain, comme la communauté de communes d'Onisud, de pouvoir faire vivre cette carte interactive et de continuer à l'enrichir.
Donc effectivement, vous l'avez mentionné, la communauté de communes Onisud a été partenaire de ce projet. Est-ce que vous avez eu d'autres partenaires pour mettre en place ce projet ?
Beaucoup de partenaires pour mettre en place ce projet. Le partenaire principal, donc la région Nouvelle-Aquitaine, hein, qui est un cofinanceur extrêmement important, sans lequel le projet n'aurait pas vu le jour. Et puis une quinzaine de partenaires dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Ça va du syndicat de la baie de Cibourg et Saint-Jean-de-Luz au sud, à la commune d'Hervaux au nord, dans l'est de la région, la ville de Limoges. Donc on a effectivement une quinzaine de partenaires comme ça.
C'est effectivement très étendu dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Combien d'événements ont été organisés déjà ?
Alors, on en est à notre 15e événement. Le dernier a eu lieu à Ardes hier, avec vous, donc à la communauté de communes d'Onisud. Et évidemment, il va y en avoir encore beaucoup, puisque le projet doit vivre sur 4 ans. Et on en est à peu près à mi-parcours.
Et il y aura d'autres événements du coup en 2025 ?
Oui, il y aura d'autres événements en 2025. Les prochains qui sont prévus, donc dans la Vienne, du côté de Charroux, communauté de communes de Civray en Poitou, le 5 avril prochain. Et puis le suivant, le 17 mai, on ira en Gironde, dans la petite ville de La Réole. Là encore avec une commande de la ville qui veut travailler sur l'histoire de son urbanisme. Donc on va essayer d'interroger les habitants sur ce point, sur ce plan-là.
Et nous allons revenir justement aux événements qui ont eu lieu en Aunis-Sud. Deux événements de collecte ont été organisés en 2024, dont un à Surgères, dans le cadre de la fête de la nature le 25 mai, et un à Hardillières, le 12 octobre, dans le cadre cette fois-ci de la fête de la science. Alors, quels témoignages vous ont marqué ?
Alors, il y a beaucoup de témoignages à chaque fois, et en fait, moi je suis un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, mais je viens avec une équipe d'étudiants, donc je n'ai pas toujours la main sur tous les témoignages. Mais de ce que j'ai effectivement vu, à Hardillières, c'était très intéressant parce qu'on avait affaire à un petit groupe de, on va dire, d'habitants qui étaient là depuis plusieurs générations et qui nous ont parlé de l'évolution de la commune. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est dans le bourg d'Hardillières, la disparition du ruisseau. Enfin, il n'a pas disparu, mais il a été complètement recouvert pour faire passer des voies de communication qui n'existaient pas il y a encore 50 ans. Donc là, on a eu un témoignage autour de cette question-là. Et puis, à Surgères, un témoignage émouvant d'une dame qui était scolarisée le 8 mai 1945 et qui, en rentrant de l'école, a vu les fenêtres s'ouvrir et les drapeaux bleu-blanc-rouge sortir sur le coup de 17h parce que l'annonce de l'armistice avait été connue à Surgères à cette heure-ci.
Donc pour vous, il y a des enjeux dans ces collectes de mémoire, mais aussi par rapport à la confrontation aux archives.
Oui, alors il y a de vrais enjeux, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui fait sens sur le territoire pour les gens qui le connaissent et qui le pratiquent depuis longtemps, hein, souvent des personnes âgées et puis qui sont là peut-être dépositaires aussi de la mémoire de leurs parents ou de leurs grands-parents, et de mettre ça en communication avec ce que nous disent les archives publiques, voire un certain nombre d'archives privées, puisqu'on a eu la chance par exemple pendant le liste parti de Surgères, d'avoir quelqu'un qui nous a confié le cahier d'un commerçant ambulant, cahier qu'elle avait trouvé en achetant la maison, et ce commerçant ambulant habitait dans cette maison-là avant elle. Et évidemment, ce personnage est tout à fait passionnant. On a confié le cahier aux archives départementales de la Charente-Maritime, après en avoir pris connaissance.
Et à propos de mémoire, est-ce que vous avez en tête une anecdote historique que le travail de collègue vous a permis de découvrir ?
Bah précisément, cette anecdote-là, avec le jour de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, le commerçant ambulant qui marque sur son cahier, bah rien, néant. Un petit peu comme Louis XVI qui dit le 14 juillet 1789, rien. Donc ça montre bien que les témoins, lorsqu'ils vivent des moments historiques, bah c'est rétrospectivement qu'on va leur apprendre que le moment était historique, parce que sur le moment, lui, il s'est rendu compte de rien. Quoi.
Les étudiants et vous-même ont mené un travail de recherche en amont dans les archives. Quelles sources ont été utilisées ?
Alors, des sources de tout type. Beaucoup de sources iconographiques, parce que comme on travaille sur des cartes interactives, on aime bien pouvoir mobiliser les cartes anciennes. Donc, principalement depuis le début du XVIIe siècle. Et puis évidemment, les collections ne cessent de s'enrichir, de devenir de plus en plus diverses et de plus en plus précises à mesure qu'on avance dans le temps. Et on a la chance, avec le web système d'information géographique, de pouvoir géolocaliser ces cartes et les superposer, les faire apparaître, disparaître sous forme de calque. Alors c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu démocratisé, puisque le site de l'Institut Géographique National, le Géoportail, propose ce type d'outils, mais nous on personnalise en faisant entrer dans ce type d'outils des archives, des cartes qui sont, on va dire, un peu plus rares, puisque elles vont pas couvrir la totalité du territoire national, mais précisément la ville, le quartier, la commune, etc.
Vous avez notamment orienté la recherche vers l'évolution du paysage du patrimoine viticole au patrimoine industriel, ainsi que les transformations du paysage au cours du temps. Et quel est le constat sur ces recherches ?
Alors, il y a un gros constat qui n'était pas forcément une surprise, mais qu'on a pu mettre en évidence sur des cartes interactives, c'est la disparition de la vigne dans le territoire de la commune d'Aunis-Sud, la communauté d'Aunis-Sud. La vigne couvrait jusqu'à 50-60% du territoire de certaines communes avant la crise du phylloxéra à la fin du 19e siècle. Et donc ça avait des conséquences aussi sur l'organisation du bâti agricole, puisqu'on avait des grandes portes cochères pour faire entrer des charrettes avec des grands fûts, etc., qui ensuite évidemment ont été recyclés pour l'élevage laitier, pour tout un tas de choses. Mais on a un patrimoine qu'on a plus ou moins oublié, de nouveaux habitants qui arrivent ici sont loin de s'imaginer que la vigne pouvait couvrir 50% du territoire de la commune de Surgères, de celle d'Aigrefeuille ou de communes plus petites. Quoi.
Vous travaillez notamment sur l'histoire du Vendier, qui est chère à votre cœur. Vous avez notamment rédigé un article dans la revue L'Actualité de Nouvelle-Aquitaine en 2023. Et vos souvenirs d'enfance dans un hameau près de Boisse, en plein cœur de l'Aunis et de ses plaines agricoles, dialoguent avec votre regard d'historien. Vous évoquez la disparition d'un écosystème aquatique, le Vendier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire justement avec le Vendier, mais aussi de son histoire ?
J'ai trouvé ce projet autour du Vendier passionnant parce que, effectivement, donc, j'étais pêcheur de truites dans les années 80 dans ce petit ruisseau. Je les ai vus progressivement, on va dire, disparaître. Alors ils disparaissent jamais complètement puisqu'on refait des opérations, on en remet, etc. Mais et j'avais entendu de la part de mon père, de mon grand-père, les moments où on avait là encore peuplé le ruisseau avec des truites fario. Et puis moi, j'avais un grand-père qui avait fait la guerre de 14 et qui avait été meunier sur le ruisseau, donc qui parlait de ses collègues, puisqu'il y a rien que 4 moulins sur ce ruisseau qui fait 5 km de long, hein, donc il était extrêmement aménagé. Et puis grâce à vous, à la communauté de communes d'Aunis Sud, après la rédaction de l'article, j'ai eu de nouvelles ouvertures, puisque y a un projet de renaturation, de reméandrage du Vendier, et donc vous m'avez fait entrer en contact avec les promoteurs de ce projet-là.
Revenons à la base philosophique. Pour vous, quel est le rôle d'historien ?
Je trouve que l'histoire doit avoir un rôle dans le quotidien. L'histoire doit être appliquée, doit faire partie finalement des considérations qu'on doit avoir en tête quand on prend des décisions pour décider sur un territoire, ou même quand on arrive dans un territoire et qu'on vient y habiter. Je boucle avec ce que je disais au début de l'interview au moment de Xintia. Beaucoup de gens ont fait construire des maisons ou ont acheté des biens dans des endroits où ils n'auraient jamais dû résider. Et le résultat de la tempête de Xintia, c'est qu'il y a quand même eu, dans un village dont tout le monde se souvient, la Faute-sur-Mer, dans le sud de Vendée, il y a eu 29 morts parce qu'il y avait un quartier complet qui avait été créé à un endroit où, si on avait un peu plus respecté l'histoire, on n'aurait pas eu ce type de drame. Donc, je pense que l'histoire doit être vivante et doit faire partie des choses qu'il faut prendre en considération pour habiter quelque part. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel et en tout cas, c'est la mission que, avec d'autres, j'essaie d'accomplir dans nos sociétés contemporaines.
Pour rebondir autour de cette notion comme quoi l'histoire doit être vivante, quels sont vos sujets de recherche actuels ou futurs même ?
Alors, mes sujets de recherche actuels, là en ce moment je travaille sur un projet de commémoration, puisqu'il y a 400 ans, il y a eu les guerres de La Rochelle qui se sont terminées par le siège de La Rochelle. Et en fait, on m'a demandé d'écrire plusieurs articles sur ces événements-là, mais vus de l'île d'Oléron, puisque je réside sur l'île d'Oléron à l'heure actuelle. Et je crois avoir découvert des choses intéressantes. C'est-à-dire que, tant au moment du siège par Richelieu qu'auparavant, lorsque La Rochelle se mettait en défense contre les armées du roi, finalement, l'île d'Oléron a servi d'espace réserve. On est venu puiser tout un tas de matériaux, etc., et notamment du bois. Et on sait qu'à l'époque de Louis XIV, 50 ans plus tard, il n'y a plus de forêt sur Oléron. Donc je pense qu'il y a eu un retournement écologique là, à la suite de ces guerres-là. Donc voilà, c'est vraiment là un vrai travail d'historien, quoi.
Alors où est-ce qu'on peut retrouver vos traces, les traces de vos recherches ?
Alors en ce qui concerne par exemple ce dernier chantier-là, il va y avoir un ouvrage collectif qui va être publié par des collègues de l'Université de La Rochelle et des archives départementales de la Charente-Maritime. Voilà, beaucoup de publications qui sont comme ça disponibles chez les libraires, hein, il suffit de taper le nom de l'auteur et puis de regarder un petit peu ce qui a été publié.
Et l'auteur, c'est Thierry Sozo. Merci à vous. Si vous souhaitez contribuer au travail de collecte de mémoire et d'archives, vous pouvez participer au prochain événement de collecte le 5 avril à Charroux, dans la Vienne, et le 17 mai à La Réole, en Gironde. Ajoutons qu'en territoire Aunis Sud, vous allez donner une formation aux bénévoles des bibliothèques du réseau pour continuer le travail de collecte. Et plusieurs événements de collecte seront donnés à partir d'avril 2025. Revenons maintenant à la nuit de la lecture. Une manifestation a été organisée et portée par le ministère de l'Éducation nationale chaque année à la fin du mois de janvier pour découvrir les événements de vos bibliothèques et de vos librairies. Je laisse la parole à Julie qui va vous parler de l'Escape Game.
Oui, bonjour. Alors, le 25 novembre avait lieu la Nuit de la Lecture. Cette programmation nationale et annuelle est portée par le ministère de la Culture. En 2025, le thème était les patrimoines. Des bibliothèques du réseau ont donc proposé des animations le samedi 25. Une soupe comptée à la bibliothèque de Saint-Saturnin-du-Bois, de l'orgue de Barbarie à celle du Tout, et dans la bibliothèque de La Devise, de Forges et de Saint-Pierre-d'Amilly, des quiz autour des contes et un escape game dans lequel il fallait échapper à Barbe Bleue. Je suis donc allée interroger les équipes qui avaient tenté de s'échapper à temps du sort réservé aux épouses de Barbe Bleue. Voici leur réaction.
Alors vous allez entendre tout d'abord un extrait du conte de Barbe Bleue pour mettre dans l'ambiance, et puis le contexte, la mise en situation des participants avec le rappel de quelques consignes. Ensuite vous entendrez les équipes un peu déboussolées peut-être au début, mais qui se prêtent rapidement au jeu et la découverte de certains indices, et nous finirons par le ressenti des équipes à la fin de leur mission.
Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que de ce sang se miraient les cœurs de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du savon et avec du grès, il demeura toujours du sang car la clé était fée et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Alors, vous êtes
la femme de Barbe Bleue. Vous savez qu'il va bientôt rentrer et vous n'avez nulle part où vous réfugier et pas le temps de vous enfuir. Vous savez aussi que dans la bibliothèque se trouve un grimoire avec dedans une recette d'élixir qui peut effacer toute souillure, y compris le sang. La Barbe Bleue revient de son voyage dans 45 minutes. Vous allez donc devoir trouver ce grimoire et fabriquer l'élixir avant son retour, qui signifierait votre mort. Il va falloir être rapide. Au bout de 40 minutes, vous entendrez Barbe Bleue se rapprocher de la demeure. Vous ne pouvez compter que sur vous-même.
Rien ne se casse, rien ne se déchire. Il n'est jamais nécessaire de forcer. Les meubles ne se déplacent pas. Il ne faut pas toucher aux prises électriques ni aux prises informatiques, mais l'ordinateur là-bas, vous pouvez l'utiliser. Et un indice, ainsi que le moyen de l'obtenir, ne sert qu'une seule fois. Bon courage.
Ouh là là,
oui, bonne chance. Surtout.
Bon, que fait-on ?
Vous trouvez l'élixir. Vous allez où là ?
On cherchait le grimoire. Hein.
Qu'est-ce que vous avez ?
Il y a un coffre.
Il y a un coffre.
Ah, il y a un code là.
Là,
il
y a
encore
des...
Code.
Encore ? Oui. Mais ça se trouve, il y a quelque chose à l'intérieur. Mais je pense qu'il faut décoder ça après pour ça, mais... Et ça, je sais pas, on verra.
Je te fiche.
Voilà.
Okay. Voilà, c'est à vous.
Eh ben, c'est parti.
Qu'est-ce que je veux dire,
non, pas...
C'est tout.
Il faut observer.
C'est tout. Ah si, regarde, il y a les lettres des livres. Ça doit peut-être correspondre à quelque chose. Ah,
Allez.
Cendrillon qui est là-bas.
Oui, et attends, c'est quoi ce qui va avec là?
Les tableaux là.
Avec le A.
Cendrillon, c'est un, je dirais le G, moi, non?
Attends, mais regardez la
dans mes souvenirs, c'est dans mes souvenirs, quand ils ont des trucs comme ça, c'est qu'il y a une clé là-dedans. Qui doit ouvrir le coffre.
Il est dans la commune.
Ah, dans la commune Forge. Tout
alors attends, le C.
Attends là. Je pense
bah,
que
forge.
Du coup, ah, oui. Je pense que non. Là c'est trou il a
chaboté.
Été accroché.
Chaboté.
Donc je pense le qu'on chaboté. Va s'accrocher comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a dans le chaboté ça.
Ah c'est.
Je dis rien.
Ah
Là, il y a des chiffres.
Comme ça, je vais
arriver. Vas-y. Et
voilà, c'est celui-là.
Quoi,
c'est DHB?
Ouais, c'est dire quoi ça?
Alors, alors, vous avez très peur.
Je vois le tissu.
À savoir ce que vous en avez pensé. Alors,
ah, nous, c'était notre premier.
Ouais, moi, j'étais complètement perdu. Hein.
Et paniqué?
Ah bah oui.
Oh, c'était l'angoisse.
Ouais, j'avais peur que Barbe Bleue me rattrape.
Ouais. Bon, puis finalement.
Finalement, non.
Finalement, ça s'est bien passé.
Non,
c'était sympa.
Vous reviendrez?
Ah oui, on reviendra.
Ah
ouais, au prochain.
À la nuit de la lecture 26,
on reviendra.
Ça marche, super. Merci.
C'était génial. Super.
C'était absolument incroyable.
Que d'émotions.
Merci aux bénévoles.
Mademoiselle, messieurs, au nom de la bibliothèque de Forges, du réseau des bibliothèques de la communauté de communes d'Aunis-Sud, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous remettre votre diplôme.
Ouais. Ouais. Merci.
Bravo. Bravo à la chocolatine.
Et la photo.
Merci Julie. Zoom sur l'orchestre d'harmonie de Surgères avec Renaud.
Bonjour Pierre Vivier, vous êtes président de l'Harmonie de Surgères, vous qui faites 600 années d'existence. Vous pouvez-vous nous parler de votre association et de son évolution ?
Oui, d'abord bonjour. Oui, en effet, 100 ans d'histoire, de passion et de partage de la musique. 100 ans où des générations de musiciens ont fait vibrer notre communauté à travers des concerts. Mais aussi des cérémonies, le 8 mai, le 11 novembre et la fête nationale du 14 juillet. L'Harmonie, c'est la plus vieille association de la ville de Surgères. Nous en avons longtemps partagé nos concerts avec les musiciens de Vouet, d'où son ancien nom, Orchestre d'harmonie de Surgères-Vouet, pour devenir Orchestre d'harmonie de Surgères depuis 2014. La réussite de notre harmonie, c'est aussi le partage avec les élèves du conservatoire qui y réalisent leurs pratiques d'ensemble. Sous l'impulsion de son directeur, nous évoluons sur de nouveaux styles de musique pour sortir un peu du répertoire classique d'harmonie, par exemple la participation d'une chanteuse en 2024, et cette année, on s'initie au swing des années 40.
Il semble qu'il y a un lien fort entre votre association et le conservatoire de musique Aunis-Sud, puisque votre orchestre est une pratique collective pour certains des élèves et que les chefs d'orchestre sont enseignants au conservatoire.
Oui, tout à fait. Tout à fait, et c'est effectivement grâce avec la participation des élèves du conservatoire que nous pouvons réaliser ces magnifiques concerts tout au long de l'année.
Votre dernier concert a eu lieu le 23 novembre dernier au Tout pour célébrer la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Pouvez-vous nous parler de votre programmation de l'année à venir ?
Oui, alors effectivement, après notre concert de la Sainte Cécile en novembre, nous avons une belle programmation cette année. En exemple, le 5 avril, une rencontre d'orchestre. Le 12 avril, notre temps fort, j'en parlerai plus tard. L'harmonie fait son swing. Le 8 mai, deux cérémonies. Le 17 mai, un concert dans l'île de Ré pour le départ d'un de nos chefs. Le 21 juin, la fête de la musique à Landré. Le 14 juillet, concert de la fête nationale à Surgères. Le 11 novembre, à nouveau deux cérémonies. Et en novembre, le concert de la Sainte Cécile. Mais je veux revenir sur notre grand projet, notre concert du 12 avril au Castelparc.
Pour le concert de printemps, finalement, cette manifestation aura lieu.
Ce concert aura lieu donc le 12 avril. Et en introduction, je vous parlais des nouveaux styles. En effet, ça va être une grande première pour nous, avec la venue des Swinbirds, qui sont trois chanteuses danseuses, qui revisitent les grands standards des années 40-50, très inspirés par les Andrews Sisters. À l'initiative de l'orchestre d'harmonie Lille Five, elle nous propose un programme swing de 14 morceaux, spécialement arrangés pour orchestre d'harmonie et trio de chanteuses. On veut que cette soirée soit une vraie soirée festive, avec en première partie de 18h30 à 19h30 une initiation aux danses swing. Nous proposerons aussi une restauration rapide et des rafraîchissements. À 20h30, le concert avec les Swinbirds, la piste sera ouverte pour les danseurs. Cette soirée se veut aussi un hommage aux 80 ans de la Libération.
Alors si je comprends bien, ce projet c'est à la fois un travail autour d'une nouvelle esthétique pour vous, une rencontre avec des artistes et puis un rendez-vous à partager avec la population sous la forme d'un bal. que vous organisez.
Tout à fait, c'est exactement ça. Pour nous, c'est une nouveauté, un nouveau style, et partager ce moment festif avec la population.
Et vous pouvez nous expliquer la jeunesse de ce projet, comment est venue l'idée d'inviter ces chanteuses?
Alors, je crois que c'est la rencontre d'un de nos professeurs, d'un de nos chefs d'orchestre, de Pierre, qui a rencontré Jérémy Dufort de l'Orchestre de Lille, qui ont déjà fait cette manifestation en 2021. Et ces trois chanteuses avaient organisé ce programme là pendant le Covid. Et donc, il nous a proposé de faire à nouveau à Surgères cette manifestation.
Si on a envie d'écouter de la musique swing, on a envie de danser, c'est rendez-vous le 12 avril au Castle Park de Surgères. À partir de
18h30 pour une initiation à la danse swing. Et puis après, une petite pause et ensuite le concert à 20h30 où vous pourrez également danser et chanter.
Merci beaucoup. Et puis donc, rendez-vous à tous le 12 avril au Castle Park pour cette manifestation.
Exactement.
Merci Renaud et merci Pierre Vivier. Nous terminons l'émission avec l'agenda. Dans l'agenda de la Clé des Champs, mettez vos baskets car balade musicale et balade nature et patrimoine sont au rendez-vous. Mais avant, beaucoup de lectures avec le lancement du prix des lecteurs. Samedi 15 mars à 15h à Cirédonis, à l'occasion de la 5e édition, les livres seront présentés au public. 5 seront sélectionnés par ces derniers. Vous avez jusqu'à fin novembre pour les lire et voter pour votre préféré. La remise des prix s'effectuera au mois de novembre. Samedi 22 mars à la salle des fêtes de Vendrée, la Devise. À 17h, retrouvez la 4e édition de la scène ouverte des musiques actuelles et amplifiées. Par des courants musicaux sans cesse renouvelés, les musiques actuelles et amplifiées ont accompagné l'émergence des générations successives de la jeunesse et de leurs particularités sociales depuis les années 50. Cette année, le Conservatoire accueille pour sa scène ouverte dédiée aux musiques actuelles et amplifiées un groupe du Conservatoire de La Rochelle. Samedi 29 mars à 20h30 et dimanche 30 mars à 15h, on se remet au tri en musique à l'atelier Cyclab à Surgères à l'occasion de l'événement Recycle and Sound, la mélodie du tri et sans doute du bonheur. Chaque saison culturelle, le Conservatoire Onisud a son projet phare. Cette année, il investira les lieux de l'atelier Cyclab pour vous proposer un concert où la créativité des jeunes musiciens donneront une seconde vie aux objets du quotidien pour créer des mélodies inédites et recyclées. Samedi 12 avril, à Saint-Pierre-Lanoux à 14h30, Carla Maillon et le GEMAPI vous proposent une balade naturaliste. Le point de départ se fera à la bibliothèque de Saint-Pierre-Lanoux. Une maquette pédagogique autour de la continuité écologique des fleuves et de l'établissement public territorial de Charente sera présentée. La balade s'achèvera par une collecte des mémoires et des archives autour du patrimoine, accompagnée de petites douceurs. Enfin, après cette balade, on danse. Samedi 12 avril également, au Castle Park de Surgères, à 20h30, l'harmonie fait son swing. Pour son concert de printemps, l'orchestre d'harmonie de Surgères invite un trio vocal féminin, les Swing Birds. Cette soirée a pour ambition de vous faire danser autour d'un répertoire revisité de standards des années 40-50 et des tubes actuels. Nous arrivons à la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet onis-sud.fr et sur hélènefm.com. Merci à toute l'équipe et à nos invités.